autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les rythmes du vivant qui battent partout et sur tous les temps, en nous et tout autour de nous. Battements du cœur, respiration, rythme circadien ou saisonnier, cycle du sommeil, ovulation, floraison des plantes ou migration animale. La vie serait-elle rythme avant toute chose, à tous les niveaux et à toutes les échelles, de la plus petite de nos cellules jusque dans l'infini cosmos? Comment éclairer le mécanisme et la fonction de tous ces différents rythmes du vivant, comment remonter toutes nos horloges biologiques? Voilà ce que nous allons nous demander avec notre invité, le professeur Albert Goldbetter, qui a consacré sa vie de chercheur à l'étude de la chronobiologie, de la vie oscillatoire, pour reprendre le titre de son ouvrage, autour de la question « Pourquoi et comment la vie bat en rythme ?» Bienvenue. Bonjour Albert Goldbetter.
Bonjour.
Merci d'être venu de Bruxelles pour être en direct avec nous. Vous êtes professeur émérite à la Faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles, où vous avez été entre autres responsable de l'unité de chronobiologie théorique. Membre de l'Académie royale de Belgique, vous êtes l'auteur d'un formidable ouvrage qui fait aujourd'hui référence, La vie oscillatoire au cœur des rythmes du vivant. Édité chez Odile Jacob, une nouvelle version revue et augmentée vient de paraître, et pour cause, car c'est ce champ de recherche que vous avez été tout de même, Albert, un des premiers à explorer, a connu des avancées considérables, avec notamment des perspectives thérapeutiques, mais aussi sociétales, voire économiques, d'où l'intérêt grandissant pour la compréhension de ce réseau d'horloges biologiques à l'œuvre dans le vivant, qui a tout de même valu le prix Nobel en 2017 aux chercheurs américains qui ont découvert les gènes impliqués dans l'horloge biologique de la mouche du vinaigre. Elle aussi, elle vit en rythme, la mouche du vinaigre, comme tout le vivant, Albert Goldbetter.
Eh bien oui, donc la drosophile, c'est le nom de cette fameuse mouche qui est utilisée comme modèle en biologie du développement et en génétique depuis une centaine d'années, a fait l'objet des premiers travaux sur la génétique des horloges circadiennes, donc les horloges de 24 heures. Et ça a commencé avec le travail d'un jeune doctorant au Caltech, donc en Californie, Ron Konopka, qui voulait étudier les horloges circadiennes et qui a été proposé à un généticien très connu du Caltech, Seymour Benzer, d'étudier la drosophile pour le mécanisme de ces rythmes. D'abord, il fallait montrer qu'il y en avait. Et son travail a montré effectivement que les mouches ont un rythme d'activité et de repos d'une période de l'ordre de 24 heures, en conditions constantes, c'est-à-dire en obscurité constante. Et fait remarquable, c'est que dans ses travaux, Konopka a muté a provoqué des mutations chez ces mouches et a montré qu'il y avait des mouches qui avaient un rythme allongé, une période de 29 heures, et des mouches qui avaient une période plus courte, de 19 heures. Et c'était le même gène qui était impliqué dans ces mutations, et il a appelé ce gène PER, PER pour période. Ça, c'était le début des études génétiques du mécanisme d'horloge circadienne chez la drosophile.
Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'outils que quand vous avez démarré vos travaux. Vous faites de la modélisation autour de ces questions. Il y a plus d'outils génétiques, notamment, pour étudier toutes ces horloges biologiques, parce qu'on va le voir au cours de cette émission, elles sont partout. Et puis, il y a plein de rythmes différents. Il y a le rythme circadien, mais c'est loin d'être le seul.
Bien entendu. Et pour les rythmes circadiens, effectivement, au cours des 20 dernières années, il y a eu des progrès remarquables qui ont été accomplis. Donc, après les travaux de Konopka et Benzer, il a fallu attendre une dizaine d'années pour que deux groupes de chercheurs américains, donc d'un côté Rosbach et Hall, à l'université Brandeis près de Boston, de l'autre côté Michael Young à Rockefeller, à New York, montre qu'il y avait des gènes supplémentaires qui étaient impliqués, y compris le gène TIM pour timeless, qui a perdu le sens du temps. Et de plus, ce que ces chercheurs ont montré, c'est que le mécanisme de l'horloge circadienne repose sur des boucles de régulation de l'expression des jeunes.
C'est-à-dire qu'au fond, il faut se réaccorder à chaque fois qu'il y a des horloges internes, des horloges externes, enfin que tout est une question de rythme et de se réaccorder tous ces rythmes-là, internes avec externes.
Tout à fait, surtout dans le cas des rythmes circadiens.
Donc c'est des rythmes 24 heures, voilà, un jour-nuit.
C'est le rythme biologique par excellence qui a évolué au cours du temps pour permettre aux êtres vivants de s'accorder, d'être en phase avec l'alternance du jour et de la nuit, qui est certainement la donnée la plus claire, la plus évidente de l'environnement terrestre.
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres rythmes. Alors il y a le rythme saisonnier, et puis à l'intérieur des organismes vivants, il y a plusieurs, beaucoup d'horloges biologiques.
Tout à fait. Par exemple, il y a des rythmes neuronaux. Les neurones, le cerveau est une usine à produire des rythmes de fréquences diverses. Ces rythmes contrôle l'alternance de certaines phases au cours du cycle du sommeil. Mais il y a le contrôle du rythme de la nutrition, le contrôle du mouvement. Donc les neurones contrôlent le rythme de la respiration. Il y a des réseaux de neurones qui sont organisés dans le temps pour contrôler ces fonctions périodiques. En réalité, les principales fonctions physiologiques sont de nature périodique. Il y a le cœur, bien entendu, le battement du cœur, dont l'origine repose sur des mécanismes de transfert d'ions à travers des membranes excitables au sein des cellules cardiaques. C'est le même mécanisme qui est à la base des rythmes neuronaux. Mais il y a aussi des rythmes, par exemple, dans l'ion calcium, qui varie de manière pulsatile au sein des cellules. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais ce phénomène joue un rôle important. Par exemple, il est impliqué dans le contrôle des contractions utérines, hein, ou des phénomènes de sécrétion.
Pour l'ovulation, pour accoucher, pour le développement. Autour de la question pourquoi la vie finalement bat toujours en rythme, je propose de commencer, Albert Goldbetter, par un petit tour de cadran sonore sur les traces de quelques-uns des innombrables rythmes à l'œuvre dans le vivant, un mix qui pulse, signé Hugo Violas.
Les plantes attendent le signal de leur horloge interne pour pousser. Les animaux s'accouplent à la saison des amours pour que leur progéniture grandisse dans de bonnes conditions. Et les oiseaux migrateurs s'envolent toujours vers d'autres cieux, à point nommé.
Votre horloge est détraquée, elle retarde de 2 jours.
De 2 jours?
Oh, malheur.
Même perdu sur une île déserte, sans réverbère, ni montre, ni radio, rien qui puisse indiquer l'heure du jour ou de la nuit, l'horloge biologique parviendrait seule à se remettre à l'heure.
La Terre en un jour tourne sur elle-même. Pour éviter le tournis, animaux et plantes font de même. En 24 heures, il cycle aussi.
Astérix, il sommeille.
La maladie a des horaires précis. Frank Butkereit a découvert que la substance inflammatoire est toujours libérée vers 2 heures du matin, juste avant d'activer les processus d'inflammation chronique dans les articulations.
La chrononutrition, c'est tout bêtement l'expression quotidienne de la chronobiologie humaine sur le plan nutritionnel.
Pourquoi a-t-on plus de risques d'avoir une crise cardiaque à 8h du matin ou un accident de voiture à 2h de l'après-midi ?
En transe et en rythme, le vivant est toujours en rythme. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, Albert Goldbetter ?
D'abord, une des fonctions importantes des rythmes est de permettre aux organismes vivants de s'accorder avec la périodicité de leur environnement. Il y a d'une part l'alternance du jour et de la nuit, qui a suscité l'émergence au cours de l'évolution des horloges circadiennes, d'une période de 24 heures. Et comme on l'a entendu, il y a également les rythmes saisonniers. Et beaucoup d'espèces animales se reproduisent à des moments précis de l'année, de telle sorte que leur progéniture se naisse au printemps, quand la nourriture est abondante.
Et ça, c'est une question de rythme, là aussi.
Bien entendu, il y a des horloges annuelles. Et ce qui est remarquable, c'est que certaines espèces s'accoupleront en automne, d'autres en hiver, d'autres par après. Pourquoi ? Parce que le temps de gestation change en fonction d'espèces. Et ça, c'est un phénomène remarquable qui a émergé au cours de l'évolution.
Votre livre, Albert Goldbetter, s'intitule « Au cœur des rythmes du vivant », sous-titré « La vie oscillatoire ». La vie, plus qu'encore en rythme, l'oscillation, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est de plus infime oscillation ? Ça veut dire que ces rythmes, ces horloges, elles sont d'abord chimiques, finalement ?
Alors, en fait, la plupart des rythmes biologiques sont de nature chimique. Et effectivement, on connaît des horloges en chimie, c'est-à-dire en chimie qu'on appelle la chimie organique. Et il existe une réaction chimique bien connue, qui est périodique. Elle porte le nom des deux chercheurs qui l'ont mise au jour. C'est Belousov et Jabotinsky. On l'appelle la réaction de Belousov-Jabotinsky, la réaction de BZ. Elle passe du rouge au bleu quand on ajoute un indicateur coloré, mesurant l'acidité du milieu, avec une période de l'ordre d'une trentaine de secondes. Ça, c'est un exemple d'horloge chimique. Mais le mécanisme moléculaire des rythmes biologiques est également de nature biochimique dans la plupart des cas. Et par exemple, l'horloge circadienne fait intervenir des phénomènes de régulation de l'expression d'un certain nombre de gènes qui sont traduits en protéines, et ces protéines exercent un contrôle sur l'expression de leurs propres gènes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de feedback. Dans ce cas-là, c'est un feedback négatif, mais il existe des cas où le feedback est positif, il existe des cas où les deux surviennent de concert, et donc à chaque fois, il s'agit, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre au niveau moléculaire quelle est l'origine de ces rythmes du vivant.
Ces horloges biologiques, ces rythmes du vivant, est-ce qu'ils concernent vraiment absolument tous les organismes vivants sur Terre? C'est le sens de la question soulevée par notre invité d'hier, le biologiste, mycologue et éminent spécialiste de la forêt Francis Martin de l'INRA. Écoutez, c'est pour vous.
Que connaissons-nous aujourd'hui de la chronobiologie des arbres? Est-ce que les rythmes au quotidien, les rythmes circadiens ont un impact sur le fonctionnement des arbres?
Votre réponse, Albert Goldwetter.
Eh bien oui, et en fait, c'est dans le domaine de la botanique qu'on a effectué les premières observations expérimentales des rythmes circadiens.
Chez les plantes.
Le tout premier article qui traite de l'horloge circadienne qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque a été écrit par Jean-Jacques Dortus de Meyran, qui était à la fois membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, et qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Paris en 1743. En 1729, il a eu l'idée, il a publié un article d'une page, ce qui est remarquable, sur la sensitive, qui est une plante dont les rameaux se rétractent lorsqu'on la touche. Et il a montré que ce phénomène, que les rameaux s'abaissent et s'élèvent au cours de la journée, et en mettant la plante à l'obscurité, il a constaté que ces mouvements perdurent dans l'obscurité.
Donc elle arrive, même sans horloge extérieure, elle a son horloge
exactement.
Intérieure.
En termes actuels, on dirait que l'horloge est endogène, c'est-à-dire qu'elle est produite par le système lui-même, la plante elle-même, et pas par l'environnement. Bien entendu, l'environnement est essentiel parce qu'il permet d'entraîner l'horloge interne. Le cycle lumière-obscurité permet d'entraîner l'horloge circadienne à exactement 24 heures.
De la remettre à l'heure, finalement,
voilà,
cette horloge,
hein,
c'est ça.
Tout à fait.
Chaque jour, et d'ailleurs c'est pour ça, par exemple, en période de jet lag, hein, si on prend l'avion et qu'on va de l'autre côté de la Terre, il nous faut un peu de temps pour nous remettre en concordance avec l'environnement. Et puis ça marche, on l'a dit, donc pour les plantes, pour les fleurs, pour les arbres, pour les animaux, pour les migrations des animaux aussi, j'imagine que c'est sur ces mêmes horloges que ça fonctionne.
Oui, certainement. Alors il y a un exemple très remarquable qui est celui des papillons monarques qui chaque année migrent des États-Unis vers le nord du Mexique et arrivent à retrouver l'endroit exact des forêts de montagne pour s'y poser. Et les expériences très intéressantes du groupe de Steve Repert aux États-Unis ont montré que les papillons utilisent leur horloge circadienne comme compas, pour comparer sans doute à la position du soleil, pour trouver la bonne direction. Et il a réalisé des expériences étonnantes. Par exemple, avant l'envol des papillons monarques, il les a exposés à un cycle lumière-obscurité décalé de 8 heures, ou bien un cycle lumière à une alternance aléatoire. Et quand ils les laissent partir, en suivant la direction dans laquelle ils débutent leur voyage, ils voient qu'ils se trompent de direction. Donc c'est seulement lorsque l'horloge circadienne interne n'est pas perturbée que les papillons sont capables de partir dans la bonne direction au départ de Boston, c'est donc vers le sud-ouest.
D'où l'importance de toutes ces horloges ou ces rythmes du vivant qu'on a quand même mis longtemps. Alors vous parliez de ce chercheur qui déjà en 1700 l'avait découvert chez les plantes, mais on a mis longtemps à comprendre l'importance, l'omniprésence de toutes ces horloges, parce qu'il y en a énormément.
Oui, et au cours de depuis quelques 20 ans, on se rend compte de plus en plus que l'horloge circadienne contrôle la quasi-totalité des fonctions de l'organisme. Et donc, un dérèglement de l'horloge circadienne peut conduire à des dérèglements physiologiques. Et c'est là où ça a des implications à la fois médicales et sociétales. Médical parce qu'on se rend compte qu'un dérèglement de l'horloge circadienne peut être impliqué dans des processus inflammatoires, dans des processus de croissance tumorale. Et c'est pour cela que le travail de nuit est une source possible de problèmes physiologiques.
Parce que ça dérègle.
Parce que ça perturbe l'horloge circadienne, vu que l'organisme est exposé à une lumière artificielle dans une phase où il est censé se reposer et dormir.
Question d'autant plus prégnante aujourd'hui, on y reviendra, où nos vies s'accélèrent et où nous sommes tous soumis à des lumières artificielles. On va autour de la question pourquoi la vie bat toujours en rythme et comment nous synchroniser justement. Vous avez choisi, Albert Goldbetter, de nous faire écouter une très jolie version de Il est 5h, Paris s'éveille. Elle est signée Anne Pierlet, jeune chanteuse belge qui pulse elle aussi.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche a mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris s'éveille. Nettoie leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard.
Pierlet sur RFI quand la jeune scène belge reprend le mythique tube de Dutronc. Joli choix musical, merci Albert Goldbetter. Et deux circonstances autour de la question des rythmes du vivant aujourd'hui précisément, où nos rythmes ont tendance à s'accélérer, à ne plus être en phase avec nos différentes horloges biologiques, alors même où pourtant les chercheurs comme vous nous en démontrent l'importance et l'omniprésence. Petit rappel des faits dans cet extrait du documentaire Les secrets de l'horloge biologique.
Pourquoi a-t-on plus de risques d'avoir une crise cardiaque à 8h du matin ou un accident de voiture à 2h de l'après-midi? Prendre vos médicaments au bon moment peut-il vraiment vous sauver la vie? Et pourquoi faut-il encourager les adolescents à faire la grasse matinée? La réponse à ces questions se trouve dans les secrets de l'horloge biologique. Sans que nous en ayons vraiment conscience, le tic-tac de nos horloges internes régit chaque seconde de notre vie.
Le tic-tac de nos différentes horloges biologiques régit au fond chaque seconde de notre vie. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui peut inspirer la chronothérapie, des traitements médicaux, mais aussi effectivement la question du travail de nuit, la question des accidents qui se produisent aussi plus souvent la nuit. Albert Goldbetter.
Oui, et d'ailleurs, le rythme qui est impliqué dans tous ces différents aspects, c'est celui de l'horloge circadienne.
Mmh. Les 24 heures.
Les 24 heures, puisque la vigilance dépend de cela. La plupart des fonctions physiologiques varient selon l'heure du jour. Et dans le domaine de la thérapie, des observations déjà anciennes, qui remontent à il y a une quarantaine d'années, montrent que si l'on donne un médicament à une dose donnée à différents moments de la journée, il n'aura pas le même effet. Et pourquoi ? Parce que les enzymes qui détruisent ces médicaments, qui détruisent les molécules actives, ont souvent un rythme circadien. Donc lorsque l'enzyme en question...
L'enzyme elle-même, donc
l'enzyme
la toute
elle-même,
petite enzyme,
hein, voilà.
La minuscule enzyme. Si
et cette protéine qui intervient dans la plupart des réactions biochimiques de l'organisme, y compris la dégradation des substances actives, des médicaments. Lorsque l'enzyme a un minimum d'activité, on peut concevoir qu'il y aura plus de médicaments actifs disponibles. Et au contraire, lorsque l'enzyme atteint un maximum d'activité, eh bien il va détruire plus de molécules actives. C'est pour cela que donner un médicament à telle heure ou à une autre heure n'a pas nécessairement le même effet.
Mais en même temps, on a envie de on se demande pourquoi est-ce que on n'en tient pas plus compte, parce que la recherche le montre à tous les niveaux, pour des traitements, parfois même pour des opérations, vous le dites bien dans votre ouvrage, Albert Goldbetter, et puis nous, on commence à s'en rendre compte, en plus parce que nos rythmes sont effectivement, nos vies s'accélèrent, nos rythmes sont de plus en plus complexes, donc on s'en rend compte, mais on a l'impression que c'est pas encore rentré dans les mœurs.
Je pense que ça donne évidemment une contraintes supplémentaires au traitement. Par exemple, s'il faut donner un médicament à 4 heures du matin, bon, on n'envisage pas d'aller à l'hôpital à ce moment-là. Mais toutefois, par exemple en cancérologie, le Francis Lévy, que je connais bien, avec qui j'ai collaboré, lui développe depuis longtemps des approches chronothérapeutiques dans la thérapie du cancer. Et là, il y a des pompes qui injectent de manière programmée certains médicaments, et on les prend en ambulatoire. Et donc, ces médicaments sont programmés pour être administrés à l'heure optimale. Mais même dans ce domaine, les progrès sont relativement lents. Je pense que, d'une part, il y a actuellement une approche extrêmement rationnelle, puisqu'on se rend compte de l'importance des rythmes. Il y a beaucoup de variations individuelles. Et donc, on va de plus en plus vers la nécessité d'une médecine personnalisée, une médecine de précision, et y compris dans le domaine de la chronobiologie.
Et pourquoi, justement, il y a tant de rythmes ? Parce que vous dites, finalement, il y a des rythmes, au fond, individuels. Il y a des rythmes à tous les niveaux, dans nos cellules, même si le plus important, le plus fondamental, c'est le rythme circadien. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de rythmes différents ? C'est une grande question, ça.
Eh bien, et là, j'en parle dans le livre, « Pourquoi tant de rythmes ?» C'est le titre d'un des chapitres.
Exactement.
Parce qu'en fait, les rythmes sont liés aux régulations. La vie ne va pas sans régulation, sans mécanismes de contrôle, qui sont là pour optimiser les conditions de fonctionnement des organismes, qu'ils soient unicellulaires ou pluricellulaires. Et donc c'est vrai de la bactérie et à l'homme. Mais ces mécanismes de régulation s'exercent à des niveaux extrêmement différents, ce qui fait qu'il y a l'émergence de phénomènes rythmiques avec des périodes différentes, à différents niveaux de l'organisation biologique.
Oui, c'est une émergence à tous les niveaux. Et vous l'avez évoqué déjà, la vie oscillatoire, les rythmes du vivant sont à la source même de notre développement et même de l'ovulation. Enfin, l'ovulation, le spermatozoïde, c'est en rythme.
Tout à fait, tout à fait.
Qu'il marche ou pas, qu'il y va ou pas.
Je pense que les rythmes, la reproduction est un très bel exemple, le système de la reproduction, parce que les rythmes interviennent à différents niveaux. Et l'ovulation, par exemple, est contrôlée par des pulsations hormonales
qui
ont une période de l'ordre d'une heure. Et cette fréquence est importante. Si la fréquence n'est pas adéquate, il n'y a pas induction de l'ovulation. Et donc, et il y a un exemple, un très bel exemple, une des plus belles horloges en endocrinologie, c'est-à-dire une horloge hormonale, c'est celle qui, dans l'hypothalamus, produit une pulsation de 5 minutes toutes les heures dans le niveau d'une hormone qu'on appelle GnRH. On l'appelle aussi la luliberine. Et cette hormone induit les hormones LH et FSH, qui sont sécrétées par l'hypophyse, lesquelles induisent l'ovulation. Et chez certaines femmes qui n'ont pas la fréquence adéquate de pulsatilité de l'hormone GnRH, on implante une pompe qui permet, ça a été fait depuis les années 1980, cette pompe injecte dans la circulation l'hormone à la fréquence physiologique et ça permet l'ovulation.
Alors je rappelle que vous n'êtes pas musicien, même si vous ni non plus ingénieur du son, même si vous parlez de fréquence, de pulsation et de rythme, Albert Goldbetter. Vous êtes bien un chercheur, mais pour nous faire comprendre justement toute cette complexité de ces horloges biologiques qui sont un peu comme des poupées russes, hein, qui s'imbriquent les unes dans les autres, dans votre ouvrage Au cœur des rythmes du vivant, la vie oscillatoire, chaque chapitre se clôt par un petit poème de votre composition. Je propose un auditeurs d'écouter celui qui clôt le chapitre précisément dont nous parlions, pourquoi tant de rythme.
Rythme du vivant, de toute forme et de toute période, abrupte ou sinusoïdaux, rapide ou lent, rythme du vivant qui s'inscrive dans le temps, comme les méandres d'un fleuve au beau milieu des champs. Rythme qui nous scande, rythme qui nous meuve, rythme, source du temps auquel la vie s'abreuve.
Mixé par Léo Gonzalez dans la voix de Tania Tsikounas, les rythmes du vivant. La chronobiologie vous a rendu poète, Albert Goldbetter.
En fait, j'écris des poèmes depuis longtemps, même au cours de mes études de chimie, il y a bien longtemps, j'étais attiré par la poésie. À l'époque, je pensais...
Vous m'avez montré d'ailleurs un de vos premiers poèmes qui est assez étonnant, vous pouvez nous le lire hein, si vous voulez.
Oui.
C'était quoi en quelle année vous avez écrit
ce
poème
c'était
en chimie, hein,
en
c'est
chimie,
ça.
Oui, j'étais étudiant en chimie à l'Université de Bruxelles, et donc j'avais une vingtaine d'années, au début de ma vingtaine d'années, et j'avais écrit ceci. Parce que j'ai toujours pensé à l'époque que la chimie, c'est la poésie de la matière. C'est comme ça que je voyais les choses.
Moi, je la comprends mieux avec votre poème que sur la paillasse, on va dire. Donc,
oui, certainement. Au même titre que l'amour ou les collines, le cytoplasme est un mot éclatant de poésie. Au même titre que le soleil, les ribosomes fulgurent. La synthèse des protéines égale en beauté la plus belle œuvre d'art. Et tant pis si l'acide désoxyribonucléique n'a que 11 pieds.
L'ADN, voilà, mise en poème par Albert Goldbetter. Alors je me suis laissé dire que dans votre ouvrage, vous aviez prévu un petit poème qui n'a pas été accepté par votre éditeur. Il était un peu trop osé, je crois, mais moi j'ai envie de l'entendre sur les ondes
oui,
de RFI. Allez-y, Albert Goldbetter.
Mon éditeur, c'est Gérard Jorland, qui est malheureusement décédé au mois d'août de l'année dernière, en 2018. Et c'est lui qui m'avait incité à écrire ce livre. Et il était d'accord pour que je conclue chaque chapitre. C'est lui d'ailleurs qui m'avait dit de mettre les poèmes à la fin de chaque chapitre.
Donc ça permet de méditer et de comprendre ce qu'on vient de
dire. Voilà, de synthétiser finalement. Alors pour les rythmes circadiens, on a entendu tout à l'heure d'ailleurs le poème qui figure dans l'ouvrage, je lui avais montré un poème de trois vers. Et alors voilà, c'est sur le nyctémère. Le nyctémère, c'est la période de 24 heures.
Le nyctémère.
Voilà, c'est la durée de 24 heures et on parle de rythmes nyctéméraux. Les rythmes circadiens sont des rythmes nyctéméraux.
Ceci et précisé, poème, allez-y.
Voilà, et le poème était très court. Nyctémère, nyctamère, c'est le jour et la nuit.
Et voilà, comment peut-être on arrive à retenir ce mot nyctémère.
Voilà, exactement. Alors Gérard Jorland m'avait dit non, c'est pas vous. Eh bien hélas, c'est moi.
C'est un rythme qui nous plaît bien autour de la question pourquoi la vie bat en rythme. Nouvelle question pour le scientifique et poète que vous êtes, Albert Goldbetter. Cette fois-ci, c'est le philosophe Charles Pépin qui vous la pose. Et attention, c'est du lourd.
Mais je pense qu'au fond là, du monde, il n'y a pas Dieu, mais il y a le rythme. Une pulsation originelle et que la joie, la musique, l'intuition, tout ça, ça veut dire qu'on est en contact avec cette pulsation première. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Qu'en pensez-vous, Albert Goldbetter, de cette pulsation première, pulsation originelle? Pour Nietzsche, il n'y a pas Dieu, mais il y a la pulsation, et il y a le rythme.
Oui, eh bien, cette phrase, je la trouve fascinante, parce qu'elle évoque beaucoup de résonance en moi, parce que, en fait, comme je le disais, il y a énormément de liens entre l'origine de la vie et les rythmes.
Et la pulsation, tout est rythme, oui.
Et la pulsation originelle. Alors, brièvement, rappelons que lorsqu'un spermatozoïde féconde un ovule, pour qu'il y ait développement, il faut que le spermatozoïde injecte dans l'ovule une substance qu'on appelle l'ocyline. On sait maintenant que c'est une enzyme qui déclenche des oscillations de calcium, sans lesquelles l'œuf ne va pas se diviser, ne va pas se développer. Premier rythme impliqué. Mais même avant celui-là, il y a le rythme de l'horloge générale dont j'ai parlé, qui est essentiel à l'ovulation même. Il y a d'abord l'ovulation, puis il y a la fécondation. Et puis, il y a les divisions cellulaires. Il faut que dans le développement, les cellules se divisent, et c'est sous le contrôle d'une horloge biochimique qui assure la transition d'un cycle à l'autre. L'horloge de segmentation contrôle la formation des somites au cours de l'embryogenèse. Donc dans l'embryon, il y a la formation des précurseurs des vertèbres. Eh bien, c'est sous le contrôle d'une horloge qui a une période de 90 minutes.
Donc là encore, c'est en rythme. Chacun des développements se fait en rythme.
Et nous sommes encore au stade de l'embryon qui se développe. Puis le cœur, bien entendu, le rythme cardiaque commence au stade même de l'embryon, à un stade précis. Lors de l'accouchement, je l'ai dit, il y a des contractions utérines qui sont nécessaires. Ce sont des rythmes qui impliquent des oscillations de calcium. La respiration qui commence à la naissance, en fait, est sous le contrôle d'un réseau neuronal oscillant. Puis il y a l'horloge circadienne qui se met en place après quelques semaines, qui contrôle le cycle veille-sommeil et le cycle de la nutrition. Donc on voit que dès le début, la vie est marquée par les rythmes, ce qui fait que on peut voir que les rythmes représentent une pulsation originelle.
Une pulsation originelle, c'est à la fois au niveau physiologique, métaphysique, j'ai envie de dire, philosophique. C'est-à-dire que ça fait effectivement réfléchir de se dire que notre vie, elle bat en rythme dès le départ et qu'au fond, elle n'est là que grâce au rythme ou grâce à des oscillations. Enfin, c'est que comme ça que ça peut fonctionner.
Tout à fait. Sans rythme, la vie ne peut pas avoir lieu. Donc, il y a une imbrication essentielle des rythmes dans la vie même. Et cette idée de pulsation originelle me fait penser à une phrase que je cite dans le livre, une très belle phrase que Jean Birnbaum, qui introduisait dans le monde des livres, il y a plusieurs années, un colloque où est passé le temps, organisé par ce journal. Il concluait son article par une exhortation qui disait ceci: il s'agit toujours de préserver au cœur même de la frénésie un tempo qui s'accorde avec sa propre pulsation comme avec celle d'autrui. Et donc magnifique. Cette pulsation rejoint finalement celle dont Charles Pépin parlait.
Et cette pulsation aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour justement, par rapport à notre monde frénétique, je ne sais pas si c'est ralentir, mais en tout cas, écouter peut-être notre rythme intérieur, essayer de l'accorder avec le reste. La question, elle est encore plus prégnante aujourd'hui qu'hier.
Certainement. Mais en fait, dans cette phrase, retrouver sa propre pulsation, bon, il ne dit pas de quelle pulsation il s'agit, hein, ça reste vague et flou, mais...
Là, c'était la pulsation du micro qu'on a entendu, voilà. Mais c'est pas grave.
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'horloges à des périodes différentes qui sont impliquées, surtout l'horloge circadienne. Bon, hein, parce que si le stress dû à l'accélération du temps social s'aggrave, il peut perturber l'horloge circadienne. Et les conséquences physiologiques qui découlent, une altération du cycle veille-sommeil, le rythme cardiaque peut également être altéré. Donc il y a certainement un message à faire passer qui est celui de respecter autant que possible ces horloges internes.
Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui devant tous nos écrans avec ces lumières bleues où on ne respecte pas. Déjà on a plus de mal à respecter un vrai rythme jour-nuit. Vous-même, vous arrivez à l'écouter un peu plus, votre propre pulsation interne, vos propres pulsations internes.
Alors,
Albert Goldbetter.
J'essaie, mais bien entendu, il y a cette accélération du monde, du temps social qui est omniprésente avec les moyens de communication que j'utilise aussi. Donc il faut essayer de garder le contrôle sur ce phénomène et de se ménager le plus possible des phases de repos et de resensibilisation.
Message reçu autour de la question: pourquoi la vie bat sur tant de rythmes différents? On continue de s'interroger avec les oreilles sur notre vie oscillatoire avec le duo Soma sur RFI quand leur rythme circadien nous met en transe.
Des formes incomprises essayent de danser leur face monstrueuse et poche de sourire dans les dents fatiguées se parsème par terre. Et la forme sourit devant son impuissance à danser sur un creux que renie la pendule. Battement régulier de rythme circadien, battement, battement, battement. Battement régulier du rythme circadien, battement, battement, battement. Battement régulier du rythme circadien, où la forme usée ne peut s'épanouir. Si on doit t'abuser une immense tenue, un spectre pesant qui peut régler le cœur de l'horloge posée comme un pied de chaussée, de le corps fluorescent, de la chose accroupie. Un regard de sa montre, sans sonder le décor. Par peur de distinguer un volume chaleur, celui qui en son sein va cueillir l'espace. Par peur de renier sa battement régulier du rythme circadien, battement, battement, battement. Battement régulier du rythme circadien, battement, battement, battement.
Le battement du rythme circadien du duo Soma sur RFI, duo électro-humain de choc, qui nous a fait penser à votre ouvrage précisément. Ça doit vous plaire, ça, ce genre de rythme, de pulsation électronique et humaine, Albert Goldbetter.
Oui, certainement. Non, j'ai beaucoup apprécié. Je le connaissais pas d'ailleurs ce morceau.
La transe, c'est du rythme aussi. Ce qui nous met en transe, c'est du rythme dans la musique.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y a des liens entre ce système neuronal contrôlant les mouvements et la perception de la musique. Donc, certainement.
Autour de la question pourquoi la vie bat toujours en rythme, Albert Goldbetter, nouvelle question de chronobiologie soulevée par un spécialiste du cerveau, Bassem Hassan, est directeur scientifique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et il travaille plus précisément lui sur le développement du cerveau.
On sait pas mal des choses sur les rythmes répétitifs comme le circadian rhythm, mais on comprend très peu comment l'être vivant, le cerveau par exemple, soit pendant son développement, soit pendant le vieillissement, compte le temps. C'est-à-dire comment le cerveau sait qu'il a, dans une certaine espèce, 24 heures à se construire. Qu'est-ce que contrôle le temps? Est-ce que c'est un contrôle central qui court dans toutes les cellules pour dire, voilà, start, stop? Est-ce que, par contre, c'est en fait le développement lui-même qui donne un feedback, une sorte de timing? Et à partir d'un certain taille, il y a de signal de stop parce qu'on a assez. On comprend rien de ça, en fait.
Est-ce que vous y comprenez quelque chose, Albert Goldbetter? Est-ce qu'on a une idée de la manière dont nos neurones, notre cerveau, puis celui des autres êtres vivants, calculent le temps?
Alors, c'est effectivement un problème extrêmement important, mais il faut distinguer différentes échelles de temps. Et par exemple, pour ce qui concerne le jour, la période de 24 heures, là, on a une donnée externe qui est l'alternance du jour et de la nuit. De même, pour l'année, on a le cycle des saisons. On a
qui nous permet de nous réaccorder, qui nous donne des indications.
Bien entendu. Et je me souviens d'avoir écrit un jour un article qui commençait par la phrase « Si les rythmes n'existaient pas, verrait-on le temps passer ?» Et en fait, il y a donc les rythmes externes, mais qui ont suscité l'émergence d'horloges internes, comme par exemple l'horloge circadienne. Alors, c'est une horloge qui est située dans le cerveau. Chez les mammifères, elle se trouve ce sont les noyaux suprachiasmatiques qui se trouvent dans l'hypothalamus. Et le mécanisme moléculaire de l'horloge circadienne ressemble assez fort au mécanisme mis en évidence chez la drosophile, avec d'autres
gènes. Chez la mouche drosophile.
Voilà, chez la mouche drosophile. Donc, pour ces échelles de temps-là, je dirais, ces horloges à base neuronale joue un rôle essentiel. Mais comment donc le comment le,
comment
des intervalles plus courts.
C'est ça, savoir exemple, combien de temps pour que voilà. le cerveau soit développé. Pourquoi est-ce qu'à tel moment il y a un vieillissement
Oui, alors là c'est donc oui, alors là c'est vraiment au cours du cycle de vie. Mmh. Hein, ça c'est encore une autre échelle de temps,
et oui, ça.
Hein, encore plus longue. Et donc là, oui, il y a par exemple une limite du nombre. Il semblerait qu'il y ait une limite dans le nombre de divisions cellulaires dans certains types cellulaires, et après un certain nombre de divisions, il n'y en a plus. Bon, donc il y a des échelles de temps différentes. Et pour ce qui concerne les durées courtes, que de la fraction de seconde à quelques secondes, il y a beaucoup de travaux en psychophysique qui s'intéressent au mécanisme neuronal qui permet de compter, d'estimer les durées. Et là, c'est
un champ de recherche.
Certains chercheurs invoquent l'existence d'horloges neuronales.
D'horloges neuronales, oui. Donc là, pour le coup, d'horloges dans nos neurones.
Certainement, mais les neurones, tous les neurones peuvent osciller, hein, puisque le comportement périodique est une caractéristique des neurones. Il y a un très beau livre qui a été publié par un grand neurophysiologiste français, Alfred Fessard, un livre publié en 1936, dont le titre est splendide, « Propriétés rythmiques de la matière vivante », sous-titre 1, « Nerfs isolés ». Donc, c'était un neurobiologiste, mais son titre est très
propriétés
général. «
Propriétés rythmiques de la matière vivante », parce qu'en fait, toutes ces questions de temps, de durée, elles se mesurent par du rythme, en fait. C'est bien pour ça qu'il y a du rythme à la base, une pulsation à la base, une oscillation à la base.
Certainement. Et les propriétés rythmiques des neurones jouent des rôles multiples dans la transmission de l'information, dans la perception des stimuli sensoriels, mais également, et là on entre dans un domaine tout à fait quasi philosophique, qui est la pensée même, la conscience. Et c'est, il est clair, ce qui est clair...
On pense en rythme.
C'est ça. Mais là, on ne comprend pas comment ça fonctionne
bien
encore.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il est plus que plausible que les propriétés rythmiques des neurones soient impliquées dans ces processus.
Eh bien, dis donc, si on pense aussi en rythme autour de la question pourquoi la vie bat sur tant de rythmes, alors c'est ici, sur Terre, hein, mais finalement, on peut peut-être se poser la question ailleurs. C'est justement ce que va vous demander le paléontologue Francis Duranton, qui dirige le Muséum de Toulouse, Cité de l'Espace.
Ces questions chronobiologiques sont au cœur de réflexions que l'on doit avoir. On le voit très bien lorsqu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes tout à fait extraordinaires comme Thomas Pesquet partent dans l'espace avec des rythmes et des choses tout à fait fantastiques et qui sont développées. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la compréhension de la biochronologie dans la perspective où l'homme est déjà en train d'essayer de se penser ailleurs, sur d'autres planètes? Quels vont être les apports de la chronobiologie dans ce domaine-là?
Est-ce que vous avez une réponse, des pistes de réponse, Albert Goldbetter? Est-ce que nos rythmes pourraient devenir extraterrestres?
Mais je pense qu'il s'agira en tous les cas d'essayer de maintenir le fonctionnement de l'horloge circadienne avec la période naturelle de 24 heures. Bien entendu, on peut entraîner l'horloge circadienne à osciller avec une période légèrement différente.
Mais ça reste quand même autour de voilà, 25-26 heures maximum.
Exactement,
ou 23 heures.
Entre 20 et 28 heures, je dirais, grosso modo. On peut entraîner l'horloge circadienne, mais si on quitte ce domaine de période, alors on risque de provoquer des désynchronisations, et là, il y a des perturbations physiologiques qui peuvent survenir. Donc, en tous les cas, il s'agira de contrôler, sans doute, par une source de lumière, qu'on utilise également dans ce qu'on appelle la luminothérapie, donc d'utiliser cette approche pour maintenir l'horloge circadienne robuste.
Et en même temps, on se dit, à vous lire, à vous écouter, Albert Goldbetter, que le rythme est vraiment à l'origine de la vie, des formes de vie qu'on connaît. Aujourd'hui, on se met à rêver ou à chercher de la vie ailleurs, extraterrestre. Peut-être qu'il faut la prendre aussi par ce biais-là, c'est-à-dire que d'autres vies, elles seraient basées sur d'autres rythmes. Mais est-ce que, le rythme, c'est pas à la source de toute vie, et que c'est pas autour de ça qu'il faut même trouver peut-être une définition de la vie?
Oui, en fait, je pense que oui, c'est si on trouvait des traces de vie ailleurs que sur Terre, il serait évidemment fascinant de voir quels seraient les principes de son fonctionnement. Mais il est probable que qui dit vie dit, si on pense, c'est difficile d'imaginer.
Oui, on est dans l'extrapolation.
À quoi ressemblerait la vie? Mais si, de manière habituelle, on pense à des organismes formés de cellules, alors il y a des divisions cellulaires et donc des phénomènes de réplication. réplication. Donc, il y a des phénomènes périodiques sans doute qui pourraient jouer un rôle. Mais cela étant, on connaît des oscillations dans les systèmes chimiques. Et la vie serait de toute façon de nature chimique également à ses débuts.
Est-ce que quand vous avez commencé ces travaux, cette recherche, notamment en modélisation de tous ces rythmes du vivant, est-ce que vous pensiez, Albert Goldwater, que ça vous entraînerait aussi loin, hein, j'ai envie de dire, sur des questions philosophiques, existentielles et est-ce que vous pensiez aussi que vous seriez peut-être rejoint finalement par la société dans son ensemble? On est aujourd'hui quand même plus conscient, plus sensible à ces questions de rythme. On en a en tout cas l'intuition, on se rend compte aussi qu'on s'en éloigne. Est-ce que vous pensez que ça allait rejoindre comme ça à la fois des grandes questions et des préoccupations de vie quotidienne ?
Non, je n'avais aucune idée du terrain dans lequel je m'engageais. J'ai commencé à travailler sur un phénomène périodique bien particulier, qui était celui que je décris dans le chapitre 2 du livre « Une horloge biochimique », la fermentation donc du sucre par la levure. Et puis, de proche en proche, je me suis intéressé à beaucoup de rythmes différents. Et c'est vrai que c'est... D'abord, après avoir terminé ce livre, j'ai réalisé la multiplicité des rythmes de périodes extrêmement diverses. Il y a plus de 10 ordres de grandeur qui séparent les rythmes les plus rapides des rythmes les plus lents.
Dans un même organisme ?
Non, pas nécessairement dans le même organisme, mais en général.
En général, dans tous les rythmes du vivant.
Il y a des rythmes de plusieurs dizaines d'années, il y a des rythmes extrêmement rapides dans les battements des ailes chez les insectes. Donc, on va de la fraction de seconde à plusieurs dizaines d'années. Et non, je n'avais aucune idée de la richesse de ce domaine, et je peux dire que j'étais comblé. Et il est vrai que l'intérêt accru de cette question est dû à l'organisation de la société actuellement. Avec l'accélération du sens social, il y a cette question qui se pose, qui est celle du décrochage possible entre nos rythmes et l'accélération du temps social.
D'où l'intérêt de comprendre et d'étudier tous ces rythmes. Est-ce que ça a un peu changé aussi votre manière de voir le temps, la vie, les rythmes en général, Albert Goldwater?
Ah oui, je pense qu'il y a par exemple un rythme qui m'est cher parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur ce phénomène, c'est l'agrégation de certaines amibes. Certaines amibes, des unicellulaires, quand elles n'ont plus de bactéries à manger, elles se nourrissent de bactéries, elles s'agrègent, mais elles s'agrègent en vagues pulsatiles, en réponse à un signal chimique qui est émis par des cellules qui sont des centres d'agrégation. Si la fréquence n'est pas adéquate, elle ne s'agrège pas. Donc il y a une fréquence optimale, et la raison pour laquelle cette fréquence existe, c'est qu'il y a un phénomène de désensibilisation. Quand on stimule trop ou de manière constante un organisme, il ne répond plus. Donc il faut laisser à l'organisme le temps de se resensibiliser pour qu'il réponde de la manière optimale à la pulsation qui survient par la suite.
Qu'il arrive se resynchroniser en rythme. Merci infiniment Albert Goldwater d'être venu en direct dans notre studio et en temps universel sur RFI pour partager toutes ces pistes de recherche et d'interrogation sur la chronobiologie. Pour en savoir plus, je renvoie bien sûr nos auditeurs à votre ouvrage « La vie oscillatoire », ça c'est le sous-titre « Au cœur des rythmes du vivant » paru chez Odile Jacob. Merci.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Réalisation rythmée et orchestrée par Hugo Violas avec Léo Gonzalez et Tania Tsikounas à la pulsation. Au plaisir de vous retrouver demain pour notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, il y aura comme chaque mois des magazines à gagner. Pour vous, fidèles amis auditeurs à l'esprit libre et ouvert, merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.